Et comme promis la semaine passée, vous savez, la semaine passée, ils ont fait un point, Blaise van der Linden et Daniel Abert, sur la géopolitique du Moyen-Orient. Eh bien, cette semaine, ils font un point géopolitique mondial et ils évoquent ensemble les perspectives pour l'année 2025. Voici donc Daniel Abert au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Abert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous en ce lundi matin pour nos dernières conversations de cette année 2024. Et on va profiter de ces conversations pour faire un bilan géopolitique mondial. Cette année, Daniel, on a assisté à un certain chaos limité, non ?
Oui, on peut appeler ça un chaos limité. Ce chaos, il est essentiellement géopolitique, avec deux conflits en cours. La semaine dernière, on a fait le bilan des guerres qu'Israël a été amené à mener contre sept ennemis à la fois, et qu'il a gagné d'ailleurs. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces guerres d'Israël ont été le centre de l'attention médiatique mondiale, au point que parfois elles ont occulté la guerre en Ukraine, tellement les médias, vous savez, chaque fois qu'on parle d'Israël et des Juifs, les médias s'en donnent à cœur joie, et si on fait le décompte des articles, c'est assez impressionnant de voir la couverture du conflit israélien. Toute cette intensité médiatique, elle est venue évidemment du sud global, dont la moitié des pays sont des pays musulmans, bien sûr, mais ils ont surtout trouvé des relais, je l'ai dit à plusieurs reprises, chez nous en Occident, dans des segments importants, y compris dans les médias, qui ont accablé Israël. Mais c'est vrai aussi que la guerre en Ukraine a été un autre théâtre de fixation. Et là, on a vu la montée en puissance de Poutine, dictateur sans frein, qui a procédé à une escalade, surtout verbal, sans frein, et surtout qui a introduit la notion de menace nucléaire à plusieurs reprises. Donc, si vous voulez, ces guerres couvertes médiatiquement de façon intense, avec des menaces où on entend parler de la menace nucléaire, évidemment, ça crée une sensation de ce que vous appelez un chaos, et un vaste chaos géopolitique, et qui en fait, finalement, a vu se constituer sous nos yeux une espèce de nouvel axe, qui n'est plus l'axe de la malédiction de l'Iran, qui lui a été détruit, mais un nouvel axe de contestation de l'Occident, dont Israël est évidemment la première victime parce qu'il est toujours au premier rang, avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord qui est venue se joindre à la fin, et donc cet axe-là qui s'appuie en plus sur le sud global, c'est-à-dire sur une 150aine de pays dans le monde, tout ça donne évidemment l'impression d'un grand chaos.
Alors, cette situation, elle a une origine. On le sait depuis février 2022 du côté russo-ukrainien, depuis octobre 2023 au Proche-Orient. Quelle est cette origine?
L'origine des conflits, elles sont diverses, etc. Mais il y a une origine commune qui est toujours un chaos économique qui précède les conflits. Et là, nous avons depuis une quinzaine d'années une rupture dans la liberté des échanges, dans ce que j'appellerais un monde de confiance qui s'est transformé en un monde de méfiance. Et tout ça a entraîné, je vais l'expliquer tout de suite, deux choses. D'une part, l'inflation, qui a renié le pouvoir d'achat de une grande majorité de la population mondiale, et puis une croissance ralentie qui a surtout fait que les gouvernements n'ont plus les ressources budgétaires pour faire face à tous les défis majeurs qu'ils ont en face d'eux, qui sont sur le plan intérieur la pauvreté qui s'étend, les inégalités qui apparaissent comme croissantes aussi, mais surtout la nécessité de préparer l'avenir, l'éducation, la santé, la recherche. Tout ça réclame beaucoup de fonds, mais en même temps, défis climatiques sur lesquels il faut évidemment beaucoup investir. Et enfin, ce chaos géopolitique qui génère des peurs, des angoisses, et cette peur des conflits se traduit par une course aux armements, un renforcement des budgets militaires, et toutes ces renforces, toutes ces ressources budgétaires qu'on met dans l'armée, ben on le met pas dans le social, dans la gestion climatique, et donc les gouvernements ont beaucoup de mal à faire face à tous leurs engagements en même temps. Et puis tout ceci, et ça je termine là-dessus, crée des tensions dans chacun des pays du monde. Et chaque pays du monde se croit seul au monde, ne voit pas toute cette image globale que je suis en train d'expliquer à nos amis, et chacun croit que les malheurs qu'il subit viennent de son propre gouvernement, et ça c'est surtout vrai dans les démocraties, mais pas que, et donc on a ce qu'on appelle le dégagisme. Dès qu'on a élu quelqu'un, on en veut un autre, et surtout d'un vote aux extrêmes, où les gens expliquent qu'ils ont aucune illusion sur les gens pour qui ils votent, les extrémistes, mais comme ils les ont pas essayés, veulent les essayer pour punir les gouvernements qu'ils tiennent pour responsables. Voilà un peu le chaos de chaque pays qui est le résultat de ce chaos global.
Vous avez commencé votre argumentaire par une explication économique. D'où il vient ce chaos économique mondial?
Écoutez, on a vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale une période qu'on a appelée la globalisation, et cette globalisation a été, à partir du moment où la Chine est devenue une grande puissance économique ouverte sur le monde, ça a été une globalisation heureuse. On a eu des croissances très fortes, on a eu des millions de gens, des centaines de millions de gens qui sont sortis de la pauvreté. Donc on a eu l'inflation a été vécue, on a acheté des produits formidables à des prix très bas. Donc on a eu une période extrêmement positive. Et ça s'est retourné il y a 15 ans, à partir du jour où, au fond, Obama a décidé que la Chine, c'était le pivot américain, devenait le défi principal des Américains, et qu'il a relâché la tension relative sur l'Europe et sur le Moyen-Orient. Et puis ceci a ouvert la porte à ces deux conflits, puisque les Américains donnaient l'impression de s'en retirer. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est cloisonné, qui est fragmenté. Il y a trois grands camps, en gros, au camp occidental. Il y a le camp des contestataires, les Russes, les Chinois, les Iraniens et les Nord-Coréens, puis ce vaste sud global qui est courtisé par les deux, mais il semble bien que ce soit la Chine qui réussit le mieux à les drainer vers lui, sachant qu'en plus, parmi ce sud global, la bonne moitié des pays du sud global sont musulmans. Donc ça n'agence pas les affaires israéliennes. Et puis j'oublie aussi que les conflits génèrent des sanctions économiques par les Occidentaux. Et ces sanctions économiques, immédiatement, ont des résultats terribles. Pensez simplement au gaz russe qui n'inonde plus l'Europe de cette matière première énergétique bon marché. Et vous avez une inflation par les coûts qui s'est envolée et qui est encore là.
Alors, au tout début de cet entretien, Daniel, on a parlé de chaos limité. Pourquoi est-il limité, ce chaos?
Écoutez, on a vu, et ça c'est tout à l'honneur des dirigeants des deux grandes puissances, États-Unis et Chine, la volonté de limiter le chaos. Et en particulier, chaque fois qu'ils se sont rencontrés, Biden et Xi ont décidé deux choses. Un, on se fait pas la guerre, parce qu'on est deux puissances nucléaires, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, on ne va pas vers la guerre froide, ce qu'on appelle le découplage. On ne va pas se séparer parce qu'on a trop d'intérêts liés, etc. Bon, on va un peu ralentir les coopérations, on va faire attention à ce qu'on vous vend, on va vous interdire l'accès à nos meilleures technologies, etc. Mais ça va pas plus loin. Et en même temps, chacun de son côté, les grandes puissances faisaient pression sur leurs alliés, les Américains sur Israël, la Chine probablement sur la Russie, pour éviter les escalades. Et la raison est très simple, c'est que ces deux grandes puissances ne veulent pas être impliquées directement dans le conflit. Vous avez remarqué qu'ils ne le sont pas. Pas directement, elles le sont indirectement, mais pas directement. Et donc ça explique pourquoi, au fond, le chaos est resté encore limité.
Pour terminer notre entretien, Daniel, quelles sont les perspectives 2025? Peut-on espérer la fin de la guerre au Proche-Orient et la fin de la guerre en Russie?
Ben c'est ce que Trump a annoncé, et donc chacun l'espère, mais on voit bien que les négociations vont être rendues difficiles par deux points. D'abord, ce contexte global que je viens de dessiner, parce qu'il ne va pas changer du jour au lendemain, hein. L'inflation, le ralentissement de la croissance, la méfiance, tout ça va rester. D'autant plus que Trump a annoncé qu'il voulait faire une guerre commerciale un peu contre tout le monde, évidemment contre la Chine. Donc ça va pas générer une nouvelle confiance mondiale, ça va accélérer la défiance mondiale. Et il va s'apercevoir à ce moment-là que les deux interlocuteurs qu'il se choisit, c'est-à-dire Poutine pour la Russie et les ayatollahs pour l'Iran, auront intérêt à peut-être ne pas négocier ou faire traîner des négociations, parce qu'ils se trouvent appuyés, eux, par la Chine, par le Sud global, et qu'ils peuvent gagner du temps et espérer une meilleure négociation. Donc là, c'est la négociation que Trump espère facile, elle sera rendue difficile par ce contexte qu'on vient de regarder. Donc l'année prochaine, il est probable que le chaos existera encore et il n'est même pas sûr qu'il sera autant limité que cette année. Donc espoir à la fois de négociation et puis beaucoup de prudence dans nos espoirs parce que ça risque d'être les espoirs risquent d'être déçus. Donc vigilance.
Et on aura l'occasion d'en parler dans
Oui.
nos conversations tout au long de cette année 2025. Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce lundi matin et bonne année!
À la semaine prochaine et bonne année.